C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi, avec aujourd'hui une spécialiste des ormeaux et elle lit en eux les impacts du changement climatique.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine, la 10e saison de LEM Transistor, qui, comme son nom l'indique, en référence à la transition, se préoccupe, vous le savez, du changement climatique. Non point qu'on veuille vous inquiéter, juste vous préparer. Parce qu'il n'est pas question de douter de la réalité du phénomène, comme le font certains, on ne les nommera pas, ils n'en valent pas la peine. Nous, la science, on lui fait confiance. Des milliers de scientifiques qui travaillent sur un sujet depuis des décennies, c'est toujours plus fiable que trucmuche autoproclamé spécialiste sur les réseaux sociaux ou qu'une personnalité politique qui a décidé que son pouvoir s'appuierait sur le déni climatique parce que ça lui rapporte de l'argent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le réel. Donc, on reçoit des scientifiques, on voit avec elle ce qu'il se passe et comment y faire face. Et ça tombe bien, on a l'UBO, l'Université de Bretagne Occidentale, juste à côté de la radio. Aujourd'hui, notre invité est biologiste et agronome, ça a son importance, au Laboratoire des sciences de l'environnement marin, le LEMAR de l'IUEM, et ça fait beaucoup de sigles, IUEM, Institut Universitaire Européen de la Mer. Elle est membre aussi du Haut Conseil Breton pour le Climat, c'est Sabine Roussel. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Alors le Haut Conseil Breton pour le Climat, je ne sais pas si on l'a évoqué sur cette antenne, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors donc le Haut Conseil Breton pour le Climat est constitué de 20 scientifiques qui travaillent donc dans différents centres de recherche et universités en Bretagne. Donc aussi bien université que CNRS, voilà, ils ont tous des expertises complémentaires puisque certains sont océanographes, d'autres vont être spécialisés en géographie, en droit, en sociologie et même en psychologie. Et donc l'objectif du Haut Conseil Breton pour le Climat, c'est d'éclairer le Conseil Régional sur la cohérence des politiques publiques. Donc tout ça au regard des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également de rendre accessibles donc des résultats scientifiques pour les décideurs et les élus des collectivités. Et donc pour cela, chaque année, on organise un forum et aussi un bulletin d'ailleurs que vous pourrez récupérer sur le site du HCBC.
Bon, bah, on le mettra en lien sur notre site. Et donc, c'est chaque région qui a son haut conseil ou c'est au bon vouloir de la région
Alors, c'est, chaque région a son conseil, mais c'est vraiment aussi au bon vouloir de la région. C'est-à-dire que, suivant où vous êtes en France, les objectifs ne vont pas être exactement les mêmes, le fonctionnement ne vont pas être exactement les mêmes. Mais on a aussi un haut conseil pour le climat qui est là à une version nationale. Mm-hmm. Nous, on est vraiment la version régionale.
Et c'est uniquement du conseil, enfin, vous n'avez aucun pouvoir décisionnaire, évidemment.
Oui, bien sûr. Malheureusement.
Oui, oui, je comprends. Alors là, franchement. Donc, c'est bien de vous avoir. Et puis, alors, justement, vous faites aussi un peu de communication envers le grand public. Enfin, ça sera le cas très prochainement. C'est pour ça que vous êtes là. Et on vous en remercie avec votre collègue géographe et également membre du Haut Conseil, donc Anne-Marie Tréguier, qui sera là aussi le 12 novembre. Donc, une conférence sur le changement climatique en Bretagne et ses impacts. Alors, pourquoi cette conférence ?
Alors, en fait, cette conférence est à destination du grand public pour répondre aussi aux questions qui peuvent se poser. Et on va plus spécifiquement l'orienter sur deux grands enjeux pour la Bretagne, que sont l'agriculture, donc les effets des changements qu'il peut y avoir pour l'agriculture, mais aussi pour le littoral breton.
Voilà. Oui, mais qui sont deux sujets absolument, on va dire, les deux sujets, s'il n'en restait que deux pour la Bretagne, l'agriculture et le littoral, ça paraît bien. Alors justement, Anne-Marie Tréguier n'est pas là, donc on va moins parler de submersion marine et d'érosion du littoral, mais on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Avec vous, on va se concentrer plus sur le biologique et l'agronomique. Est-ce que vous pouvez quand même nous faire un panorama des impacts des changements climatiques locaux sur la Bretagne? Qu'est-ce que ça sera?
Ok. Alors, pour vous donner une petite idée pour l'instant, donc là, je vais d'abord commencer par l'échelle nationale avant de prendre l'échelle plus régionale. Et donc, au niveau national, ou même au niveau mondial, en fait, on est à une augmentation actuellement de 1,2 degré par rapport à l'ère industrielle. Voilà. En France et donc aussi en Bretagne, on est déjà à une température supérieure à ça, puisqu'on est à plus 1,6 degré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les zones tempérées, donc dont on fait partie, ça se réchauffe plus vite. vite que la moyenne du reste du monde. Et donc, pour donner une petite idée de ce qui peut se passer en Bretagne, il n'y a pas encore si longtemps, en 2022, ça nous a donné un petit aperçu de ce qui va se produire dans les années futures si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Des étés plus chauds, plus secs. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois de l'année, il risque de pleuvoir très peu. Alors que, un peu comme ce qu'on peut voir actuellement, et ben, les périodes de l'automne et de l'été, au contraire, on va avoir beaucoup de pluie. Donc en fait, ça sera en proportion à peu près, a priori, les mêmes quantités de pluie, mais réparties différemment sur l'année.
Et ce qui va poser des problèmes à l'agriculture, j'imagine.
Et ça, clairement, ça va poser de gros problèmes à l'agriculture, parce qu'ils vont devoir s'adapter à des rythmes différents de ce qu'ils ont pu rencontrer par le passé, en effet. Et suivant donc, les émissions de gaz à effet de serre, suivant la dynamique vers laquelle on s'oriente, les effets donc, de cette année 2022 vont se produire une fois tous les 3-4 ans, voilà, probablement à l'échelle de 2050. Mais si on continue sans réduire la pente d'émissions qu'on a actuellement, on risquerait, par exemple, en 2100 d'arriver sur l'année comme 2022, ça serait une année habituelle en 2100. Donc voilà, donc tout va dépendre de la direction qu'on va prendre par rapport à ces émissions de gaz à effet de serre.
Et pour revenir à l'eau, enfin la gestion de l'eau en Bretagne, il faut rappeler que on a un profil régional un peu particulier parce qu'on a peu de stockage, quasiment pas de nappe phréatique, comme on dit.
Oui. Alors, en effet, ça va toucher et ce qui se passe au niveau terrestre, mais aussi ce qui se passe au niveau marin. C'est-à-dire que toute cette augmentation de la température au niveau global, déjà, on peut déjà le voir apparaître actuellement. C'est-à-dire que si on a déjà des phénomènes de ce qu'on appelle de canicule marine. C'est-à-dire qu'il y a des vagues de chaleur qui fait qu'actuellement, déjà en 2023, on observait ces vagues de forte chaleur au niveau marin.
Donc c'est la température de la mer.
La température moyenne de la mer qui, pendant au minimum 5 jours, prend des températures anormalement élevées.
Et ça, pour avoir une idée
Alors, ça va dépendre des années, mais ce qu'il faut retenir, les variations au niveau de la mer, par exemple au niveau côtier, on est plutôt à des variations, on va dire, de 1-2 degrés au niveau journalier. Là, on va être sur en moyenne de 3 degrés, 4 degrés par rapport à ce qu'on devrait avoir au niveau des températures habituelles pour la saison. Et ça va impacter fortement notamment toute la biodiversité marine. Pour prendre un exemple vraiment à proximité de chez nous, ça va être par exemple les champs d'algues vont être potentiellement fortement impactés. Dès qu'on dépasse certaines températures, certaines algues supportent très mal et donc potentiellement ça va entraîner une diminution des populations d'algues qu'on peut retrouver sur nos côtes.
Et s'il y a moins d'algues, il y a des répercussions.
Eh bien, oui. Et malheureusement, c'est également un des risques par rapport à ça. Donc, ça fait partie de la notion de biodiversité. Vous impactez les champs d'algues, vous avez moins de champs d'algues, voire disparition des champs d'algues si les températures continuent à monter. La conséquence de ça, ça veut dire moins de nurseries aussi pour les poissons. Donc, en impactant les algues, vous pourrez potentiellement impacter aussi la pêche. Parce que qui dit moins de nurseries à poissons, dit potentiellement moins de recrutement de poissons. Et donc, plus de difficultés d'avoir cette biodiversité au milieu côtier.
Alors, il y a aussi les impacts du changement climatique, c'est aussi, mais là, Anne-Marie Triguier n'est pas là pour en parler, donc tout ce qui est submersion marine, érosion côtière et la mer qui monte, parce qu'elle se dilate, en fait, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la hausse de la température, c'est pas seulement la fonte des glaciers, c'est ça
Oui. Alors, c'est clairement, il y a trois mécanismes qui sont à l'origine de l'augmentation de la montée des eaux, qui sont, la fonte des glaciers, comme vous l'avez rappelé. Également, tout ce qu'on va retrouver, au niveau de la fonte, par exemple, de la glace qui va se retrouver sur les continents, par exemple, au niveau du Groenland.
La glace de terre.
La glace de terre, exactement. Et non pas ceux qui flottent sur l'eau, parce que là, c'est l'histoire du glaçon dans le ski. Ça ne fait pas changer la hauteur de l'eau. Donc voilà, donc la glace qui va se retrouver sur la terre. Et troisième mécanisme, c'est la dilatation de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, en moyenne, est à 4 degrés. Et le fait d'augmenter cette température moyenne de l'eau fait que on va passer de 4 degrés à un peu plus de 4 degrés. C'est le moment où l'eau... Alors, à 4 degrés, c'est là où l'eau est la plus dense.
Donc 4 degrés, c'est la température moyenne des océans.
Et là où elle est la plus contractée aussi.
Ah oui.
Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces 4 degrés vont s'augmenter un petit peu. Et ça, sur une hauteur d'eau de 3 000, 4 000 mètres de hauteur, fait que cette petite dilatation augmente la hauteur d'eau aussi. Donc ça contribue à peu près à un tiers de l'augmentation de la montée des eaux.
D'autres impacts auxquels j'aurais pas pensé de ce réchauffement sur l'océan, enfin sur l'océan, on reste sur la partie océanique.
Sur la partie océan, oui. Alors alors ce qu'il faut s'imaginer, je vais peut-être situer pour nos éditeurs ce qui se passe, c'est que donc le fait d'émettre des gaz à effet de serre, donc notamment le CO2, il y a plusieurs mécanismes. Première chose, ça va augmenter l'effet de serre, donc l'augmentation moyenne de la température. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette augmentation de la température, il y a plus de 90% qui est capté par les océans. C'est-à-dire que si on n'avait pas cette masse que représente l'océan, la température serait déjà largement supérieure à ce que c'est actuellement.
C'est pour ça qu'on dit que l'océan est un puits de carbone.
Alors, voilà, c'est ça. Ça, c'est la deuxième chose.
Ah, d'accord,
après.
Pardon.
Donc déjà, c'est, au niveau thermique, ça va faire un énorme amortisseur de ces variations thermiques.
D'accord, donc, régulateur de température.
Régulateur de température. C'est aussi pour ça qu'il y a une augmentation aussi de la température de la mer. Pas simplement sur Terre, mais aussi sur la mer. Parce que ça capte 90% de cet excédent de chaleur. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir.
La mer rafraîchisseur, quoi.
Enfin... C'est ça, mais malheureusement, elle se réchauffe aussi en même temps.
Donc d'accord.
C'est la contrepartie, c'est que oui, elle rafraîchit la Terre, mais en même temps, elle se réchauffe elle-même. Donc c'est pour ça aussi, dont je vous ai parlé, des phénomènes de vagues de chaleur marines, c'est parce qu'on réchauffe la température moyenne de la mer aussi. Hein. Donc première chose. Mais un deuxième mécanisme, ce CO2 excédentaire, ce qu'il faut retenir au niveau de ce qu'on va émettre, sur la totalité, il y en a une partie qui va être captée par les végétaux, les forêts par exemple, les bosquets qu'on peut avoir par exemple en Bretagne, un peu partout. Donc tout ça, ça va capter ce CO2. Ça représente à peu près un quart du CO2 qui est capté. L'autre quart va être capté par la mer, notamment, alors il y a plusieurs mécanismes, mais par des échanges chimiques. Donc ce CO2 qu'on va avoir dans l'atmosphère va se retrouver capté par des échanges chimiques dans l'océan.
Il se dissout en quelque sorte.
Exactement.
On peut dire ça.
Et voilà. Et ce que ça va provoquer derrière, c'est que ça va provoquer une acidification de l'océan. Voilà. Donc en gros, retenez que la moitié, heureusement, il y a déjà la moitié qui sont captées, donc moins par l'océan et par les végétaux. Le reste de la moitié, c'est ce qui contribue à l'augmentation des gaz à effet de serre. Ah, mais oui. Malheureusement, la contrepartie pour les océans, c'est cette acidification aussi. Mmh. Et l'acidification, pour vous donner un petit ordre d'idée, ce que ça signifie, quand on a des organismes calcifiants, alors vous en connaissez tous, hein, ça va être les huîtres, on va retrouver aussi les moules, les ormeaux également, donc, que j'étudie, et ben, ces organismes-là, leur coquille va très mal supporter cet excès d'acidité, en fait.
Les ormeaux en particulier, enfin vous, l'ormeau, alors redites-nous un peu quel genre de coquillage c'est, parce que même si les gens voient peut-être, mais...
Ok, alors c'est vrai que l'ormeau est bien identifié généralement par les Bretons de la côte, parce qu'ils vont les chercher au moment des grandes marées, et c'est parce que c'est un gastéropode, c'est un mollusque gastéropode, c'est pas un bivalve, hein, donc c'est bien un gastéropode, retenez, c'est un escargot écrasé, on va dire, avec une superbe coquille nacrée, donc les gens généralement connaissent cette belle coquille nacrée qui servait avant fréquemment de cendrier.
Voilà. Avec des petits trous quand même.
C'est ça, avec des petits trous. Mais donc voilà, c'est un animal donc qui est constitué notamment de carbonate de calcium. Et donc retenez que si vous mettez un peu d'acide dessus, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez peut-être déjà fait l'expérience quand vous étiez plus jeune, ça va dissoudre en fait. Quand vous mettez une goutte d'acide sur par exemple une coquille alors d'huître, de moule ou d'ormeau, et ben ça va dissoudre une petite partie de cette nacre, donc fragiliser derrière la coquille. Alors chez les adultes, ça pose certains problèmes, mais l'animal peut encore gérer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les stades les plus fragiles, donc juvéniles, les petites larves, qui vont être les plus fragiles par rapport à cette acidification des océans. Parce qu'à ce moment-là, elles ont peu de protection, elles sont en train de former leur nacre, et un petit peu d'acidité va provoquer en fait beaucoup de mortalité derrière.
Et d'ailleurs, on a, paraît-il, franchi un seuil de l'acidification des océans récemment. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça veut dire que... Alors, ça, on parle en effet des limites planétaires. Ça veut dire qu'au niveau de l'acidité, tout ce CO2 qui est absorbé par l'océan s'accumule, en fait. Et donc, on arrive à un stade où ça commence à avoir des effets délétères pour les organismes marins. Alors, je vous ai parlé des organismes calcifiants, mais en fait, c'est plus large que ça, hein, parce que pour les poissons, ça impacte notamment aussi la réponse proie-prédateur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'on parle d'acidification des océans, oui, ça impacte les organismes calcifiants qu'on connaît. Plein d'autres qui vont servir aussi de nourriture pour les poissons, mais ça peut aussi atteindre directement des organismes comme les poissons aussi, parce que ça va affecter derrière ce qui se passe au niveau neuronal.
Il y a les fameux coraux aussi, évidemment, dont on parle souvent.
Bien sûr.
Symbolique.
Oui, clairement. Et en fait, ce qui est aussi marquant, c'est que ces phénomènes-là, c'est à travers l'ensemble du globe. Donc, aussi bien à proximité, c'est ce qu'on étudie, nous, sur l'Ormeau, qui est un organisme ici, qu'on va retrouver sur nos côtes. Mais tout le monde voit aussi les coraux avec ce phénomène de blanchiment, ces coraux sont impactés par l'acidification, mais aussi, deuxième facteur très important, par le réchauffement des océans, notamment les vagues de chaleur, qui fait que dans certains pays comme l'Australie, il y a une bonne partie de leur grande barrière de corail qui sont en train de disparaître actuellement.
Et alors, vous parliez de troisième mécanisme, de troisième impact sur l'océan, du réchauffement climatique, du changement climatique, parce qu'on était, en fait, on a parlé de la hausse de la température, du réchauffement marin, quoi, de l'acidification. Il y a autre chose encore comme impact ?
Alors non, ça c'est clairement les deux principaux qu'il peut y avoir par rapport aux effets globaux des changements climatiques actuels. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent impacter. C'est-à-dire, lorsqu'on augmente la température, on modifie notamment aussi l'oxygénation, donc la quantité d'oxygène que peut contenir les océans. Mais il y a en plus de ça d'autres facteurs qui entraîne par exemple une baisse de la biodiversité au niveau marin. Je vais en citer quelques-uns qui vont peut-être vous parler, mais il y a les phénomènes par exemple de surpêche. Clairement, ça va affecter une bonne partie de la biodiversité marine. Destruction des habitats. Ce sont même d'ailleurs les principaux facteurs actuellement qui entraînent une diminution de la biodiversité au niveau marin.
Là, ce n'est pas le changement climatique, c'est le comportement humain.
C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Mais il y en a encore d'autres, notamment par exemple tout ce qui est pollution, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau terrestre, tout ce qui va se passer au niveau agricole, va être capté au niveau des cours d'eau, va finir par arriver au niveau côtier et au niveau marin. Donc il y a aussi l'ensemble, des phénomènes de pollution au niveau terrestre qui, à un moment donné, arrivent au niveau marin. Donc ça aussi, c'est une des causes aussi qui contribue à éroder la biodiversité. Et dernier également facteur bien identifié, c'est le fait qu'il y ait des espèces invasives qui arrivent notamment de différentes manières, mais transportées par les bateaux, transportées aussi par nous lorsqu'on les ramène, on va à l'étranger, on ramène ça et on le ramène ensuite dans nos bagages, qui va faire qu'on va développer. Il y a des espèces invasives qui vont arriver sur nos côtes, vont se développer, vont prendre la place des populations locales en fait.
Qu'est-ce qu'il y a comme espèce invasive océanique ? C'est vrai qu'on y pense pas forcément.
Alors, ça va dépendre vraiment de où vous êtes à travers le globe, en fait. Là, ça s'est bien stabilisé, mais il y a eu la crépidule pendant très longtemps.
De petit berceau. Ouais.
On va retrouver aussi au niveau des algues, certaines algues qui peuvent se révéler invasives, qui ne sont pas invasives, en tout cas dans leur biotope habituel, mais lorsqu'elles arrivent sur nos côtes, peuvent se développer de manière excessive aussi. Donc, on retrouve ça aussi, j'ai envie de dire, au niveau des animaux, qu'au niveau des végétaux. Donc c'est extrêmement divers. Et je vais vous parler aussi d'un autre mécanisme qu'on peut observer, c'est que le fait de, par exemple, de transporter des animaux qui viennent d'autres endroits du globe, on ramène aussi des maladies. Donc ça, c'est aussi un autre aspect par rapport à ces changements-là, espèces invasives, mais c'est aussi les pathogènes associés à des espèces qu'on fait arriver d'ailleurs, en fait. Et là, je vais prendre l'exemple de l'Ormeau sur lequel je travaille. On se rend compte qu'en plus de tous les mécanismes que je vous ai montrés qui peuvent rendre la situation compliquée pour la ressource, pour l'animal, il y a des maladies actuellement qui se développent, notamment lorsque la température dépasse 18 degrés, qui fait que, fin des années 1990, il y a plus de 80% des stocks d'ormeaux qui ont disparu. Et ça, alors nous, on a été épargnés ici dans la zone du Finistère Nord, mais retenez que dans la zone de Saint-Malo et en Normandie, il y a plus de 80% des populations d'ormeaux qui ont disparu à cause d'une bactérie qui s'est développée et qui vient en fait probablement d'ormeaux d'autres pays du globe.
Donc, les bactéries, pour l'instant, elles touchent surtout les coquillages. Elles aussi. Est-ce qu'il y aurait des bactéries océaniques qui pourraient toucher les humains directement ? Enfin, la santé des humains
Alors là, je vais avoir du mal à vous répondre parce que ça sort de mon champ d'expertise. Mais disons qu'on... Alors là, je ne vais pas pouvoir vous répondre.
Oui, parce que vous n'êtes pas médecin.
Non,
je comprends bien. Voilà. Disons que celles qui touchent les ormeaux, elles ne rendent pas les ormeaux impropres à la consommation, par exemple ?
Non. Non. Par contre, clairement, vous vous touchez à la ressource alimentaire. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va impacter directement les humains. C'est via la ressource alimentaire qui est impactée.
Et alors, comme vous êtes agronome, justement, cette conférence du 12 novembre, Sabine Roussel, que vous allez donc donner avec Anne-Marie Tréguier, vous allez plutôt insister sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Donc, refaites-nous un résumé, justement, de ce que peuvent être ces impacts sur l'agriculture bretonne, hein, bien sûr.
Alors, au niveau de l'agriculture bretonne, ce qu'il faut savoir, j'ai en effet des étudiants agronomes sur lesquels je leur explique un peu ce qui se passe par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Bretagne, notamment parce qu'on est une terre d'élevage importante avec des ruminants, l'agriculture, c'est une des principales causes d'émissions de gaz à effet de serre pour la Bretagne. Voilà. C'est un peu un cas particulier, c'est pas le cas pour d'autres régions, mais parce qu'on a une région productrice de manière importante par rapport à l'élevage, malheureusement de ruminants aussi.
Donc de méthane plutôt là.
Voilà, on va plutôt émettre du méthane et ça va contribuer de manière importante aux émissions de gaz à effet de serre pour la Bretagne.
Lui, il acidifie pas les océans, le méthane?
Non.
D'accord, ok.
Par contre, ça contribue en effet à réchauffer au niveau global ce qui se passe sur Terre. Et il y a par contre, ce que j'explique aussi à mes étudiants par rapport à ça, c'est que on est émetteur au niveau de l'agriculture, mais aussi en même temps, on va être les premiers impactés. C'est-à-dire que ce réchauffement-là, malheureusement pour les agriculteurs, ça va être compliqué à gérer. L'agriculture, c'est un processus long, ça se déroule en génération. C'est-à-dire ça va, pour changer un système, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut 10 ans, 15 ans pour changer un système.
Économique.
Ouais. Mmh. Et que là, il va y avoir des changements, mais qui vont faire que l'environnement va être variable. Certaines années, on va avoir de la sécheresse, d'autres années, au contraire, ça va être extrêmement humide. Et comment s'adapter alors qu'on a, en effet, ces grosses variations auxquelles vont être confrontés les agriculteurs? Donc ça pose un réel problème. Le deuxième problème aussi, ce sont ces vagues de chaleur. Si on voit par rapport aux animaux, ça les met en situation de mal-être. Ok, donc ça, y compris comme les humains. Hein.
Mmh. Les vaches, les éleveurs, pas croire, elles n'aiment pas la chaleur.
Ah, oui,
elles supportent mieux le froid, les vaches.
Clairement, elles préfèrent, en gros, elles n'aiment pas trop quand ça dépasse 18 degrés. Donc la Bretagne, c'est très bien.
Oui, ben voilà.
Mais quand on commence à se rapprocher des températures de 40 degrés, comme ce qu'on a vécu au moment, il n'y a pas encore si longtemps, là, on les met en stress physiologique derrière. Voilà, donc, et ça veut dire aussi, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que ça va impacter directement sur place la Bretagne, mais aussi tout ce qui se passe à l'extérieur de la Bretagne va indirectement nous impacter aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, sur notre pointe ici.
On n'est pas une île.
Toutes les modifications qu'il va y avoir au niveau national, au niveau international, vont aussi impacter ce qui se passe chez nous.
Donc là, il reste quelques minutes pour émettre des préconisations, parce que les scientifiques font ça aussi, des préconisations d'adaptation, là, pour le coup, on n'est même pas... qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à ce type d'impact du changement climatique?
Alors, ce que je conseille, en fait, notamment à mes étudiants par rapport à ça, c'est de se former. C'est-à-dire que commencez par vous questionner sur l'impact de vos actions. Je vais peut-être en profiter d'être là pour en parler. Il y a notamment, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en parler, mais des animations qui s'appellent la fresque du climat, ou sinon d'automne, qui sont vraiment excellentes par rapport à ça. Fresque du climat, ça vous permet de faire un point de l'état des connaissances et de comprendre le mécanisme au niveau global. Et ensuite, pour se mettre dans l'action, donc un autre atelier qui s'appelle l'atelier d'automne, qui vous permet de comprendre en quoi nos actions, nous, au niveau individuel, mais aussi collectif.
Atelier 2 tonnes.
Atelier 2 tonnes, okay. Exactement. Mm-hmm. Peuvent permettre justement de s'orienter vers une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais ça va plus large que, c'est plus large que ça, parce que ça pose aussi des questions sur nos impacts au niveau des ressources, pas simplement que les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est ce que j'ai à mes étudiants. D'abord, formez-vous, comprenez-vous, mais il y a de quoi agir. Et ensuite, mettez-vous dans l'action.
Voilà. Et après, pour les agriculteurs eux-mêmes, les agricultrices, ça sera celles qui résisteront le mieux les exploitations, ça sera celles qui seront les plus diversifiées, c'est ça?
Alors voilà, il y a plusieurs notions qui apparaissent par rapport à l'agriculture, qui est la notion de robustesse, et notamment, est-ce qu'on a des systèmes qui permettent de supporter cette variabilité? Donc c'est sûr qu'un système pour lequel il y a plus de diversité, si vous avez un seul champ avec une seule espèce au niveau végétal, si vous avez par exemple une vague de chaleur, un manque d'eau à un moment donné, vous avez avez des risques de perdre l'ensemble de votre production. Par contre, si vous avez un système de production plus varié, dans ce cadre-là, bien sûr, il y aura certaines plantes qui ont plus de mal à produire, les rendements seront moins bons, mais par contre, d'autres, peut-être que ça sera moins problématique parce que ça ne tombera pas à un moment négatif par rapport à leur développement physiologique. Donc, cette notion de diversité est vraiment très importante au niveau des productions.
Mais idem ça, pour l'élevage, d'ailleurs.
Hein. Voilà, pour l'élevage, c'est la même compréhension. Mmh. Mais ça, à l'échelle de l'exploitation, mais il faudrait aussi que ça soit à l'échelle du territoire. Donc, il faut vraiment prendre cette notion de diversité à différentes échelles. Locales, à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de la commune, à l'échelle régionale, mais aussi au niveau national.
Donc voilà, ça serait un des nombreux sujets sans doute abordés au cours de cette conférence donc qui a lieu le 12 novembre. Alors c'est à quel endroit exactement ? C'est à l'UBO, certes, mais l'UBO c'est grand.
C'est à la Fac des sciences,
oui.
Dans l'amphi.
Et c'est à quelle heure ?
Et c'est à 18h.
Et l'entrée est gratuite, faut s'inscrire peut-être ? Non.
Alors je ne crois pas qu'il faut s'inscrire.
On ne pourra pas la suivre à distance si on ne peut pas se déplacer, il n'y a pas de visio prévu. Bon, on vous tiendra au courant, on vous mettra le lien bien sûr sur le site internet de la radio et tous les liens donc, qu'on a évoqués pendant l'émission. Merci beaucoup Sabine Roussel.
Au plaisir.
Voilà, l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la réécouter à 18h. Vous pouvez aussi la réécouter le lendemain à 8h30 et tout le temps, toute la vie presque, sur le site internet de Transistor.